Première pierre, c'est l'émission qui s'intéresse au parcours et aux mécanismes du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là? Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leur pratique, leur projet, mais également leur épanouissement personnel et professionnel? Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement.
Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio.
Bonjour, c'est le troisième épisode de Première pierre sur Bâti Radio et nous recevons aujourd'hui Franck Faucheux, chargé de la stratégie bas carbone chez Eiffage Construction. Bonjour Franck Faucheux.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous étiez déjà sensible au devenir de la planète lorsque vous étiez tout jeune, enfant, vous qui êtes aujourd'hui justement en charge de la stratégie bas carbone chez Eiffage ?
Je n'étais pas vraiment sensible à la planète au sens de l'écologie et au sens aujourd'hui de toute la connaissance qu'on peut avoir. Il y a quand même des faits marquants quand même dans mon enfance qui étaient un peu stressants. Moi, je suis un enfant de Tchernobyl. Et c'est assez marrant de se dire que ma génération... On voit bien qu'on est rentré dans l'âge adolescent et adulte plutôt par des faits un peu anxiogènes. Donc on nous parle pas de progrès, mais on nous parle de Tchernobyl et donc de problèmes nucléaires. On ne parle pas d'amour, mais on nous parle de sida. On ne parle pas de carrière, mais on parle de chômage. Donc c'est vrai qu'on va dire qu'on n'est pas rentré. Enfin, moi, je ne suis pas rentré dans l'adolescence en me disant « Ouh, c'est la fête, on va changer le monde ». Déjà, on disait « Bon, faut quand même prendre du recul ». Par rapport à ce qu'on nous montre en avant, parce que c'est vrai que le nucléaire, et on pourrait presque en parler maintenant, à un moment a été une certaine fois dans le progrès, comme l'a été le TGV, le Concorde, etc. Donc c'est plutôt... j'avais pas de conscience écologique, mais par contre, des notions de pollution ou de respect de la nature qui vient plutôt de mon père, d'ailleurs.
Plutôt de votre père. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu? C'est-à-dire, enfant, vous étiez déjà... assez sensible à cela par le fait que votre père vous présentait un petit peu le monde d'une certaine manière, avec une certaine vision.
Oui, en fait, mes parents sont des gens qui ont beaucoup de respect pour les gens en général. Et puis mon père pour la nature, mon père est vraiment un amoureux de la nature. Hein, donc dès qu'on pique-niquait, fallait qu'on laisse rien derrière nous. Et donc, voire même, fallait vivre avec les animaux, fallait pas tuer les animaux parce que ça faisait partie d'un écosystème un petit peu global. Donc, même si finalement, c'est pas vraiment ça qui m'a marqué quand j'étais enfant, ce qui m'a marqué avec mon père et ma mère, mon père était agent de travaux au ministère de l'équipement, en gros cantonnier, hein, il faisait des routes. Hein, et ma mère, aide-ménagère, donc on peut dire classiquement femme de ménage, mais ce n'est pas du tout comme ça que l'un et l'autre présentaient leur métier. Mon père, quand à 3h du matin, il se levait pour aller saler les routes, il nous disait « si moi je ne me lève pas, je ne fais pas mon travail, personne n'ira travailler ». Donc en fait, je suis un maillon important d'une chaîne pour que finalement, notre territoire, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants aillent au travail, etc. Et ma mère, pareil, elle disait toujours que finalement, elle était là aussi pour être près des personnes, accompagner, les sentir autant psychologiquement que simplement faire leur ménage et faire leurs courses, permettant aussi aux gens d'être le plus longtemps chez eux. Donc il y avait les deux, en fait, finalement, alors qu'on pourrait considérer que c'était au bas de la chaîne, en fait, valorisaient beaucoup l'apport social, sociétal de leur fonction. Et donc, j'ai jamais ressenti... Enfin, je me suis jamais dit, ma mère est femme de ménage et mon père est cantonnier. En fait, au contraire, il y avait ils valorisaient vraiment leur travail. Mes parents sont des gens bien dans leur vie, bien dans leur pompe. Donc, au contraire, c'est plutôt le bénéfice social de ce qu'ils faisaient qui m'a beaucoup importé. Et c'est souvent des questions que je me pose en me disant, finalement, mon action, à quoi elle sert ? Et c'est plutôt à qui elle sert. Est-ce que ça apporte plus du confort que de la performance écologique sur les bâtiments, par exemple ? Et ça m'a beaucoup marqué tout petit.
Très bien. Et en fait, vous étiez quel type d'enfant quand vous regardiez le monde ? Est-ce que vous aviez des centres d'intérêt en particulier, des petites passions déjà à l'époque ? Racontez-nous un petit peu.
oulala, j'étais un petit garçon sensible. Et en fait, non, je dessinais tout le temps. En fait, j'étais pas du tout, sportif, pas du tout à l'extérieur. Je dessinais tout le temps. Je dessinais beaucoup de maisons déjà. Donc en fait, finalement, c'est marrant. C'est assez tardivement que je me suis dit que j'aimerais bien être architecte, alors que finalement, bah, je dessinais tout le temps, et notamment des maisons où quand avec mes frères, donc on est quatre garçons, et donc quand mes frères faisaient des vaisseaux spatiaux, moi je faisais des villes. Hein, je faisais l'église, le village, la boulangerie, parce qu'il fallait la pied à la boulangerie. Puis après, mes frères détruisaient mon village, donc on s'engueulait. Mais globalement, ouais, c'était plutôt, j'étais plutôt un garçon d'intérieur, on va dire.
Une envie de construire, de bâtir déjà. Hein, vous dessiniez, mais plutôt de la bâtisse, quoi.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que sans doute la notion du foyer était assez importante. Et c'est vrai que les repas de famille du dimanche, en général, c'était la balade du nouveau lotissement, et tout le monde regardait le nouveau lotissement, ce qui d'ailleurs était finalement peut-être un rêve d'enfant. Et puis plus je grandissais, plus je me disais, mais en fait, pas du tout. En fait, alors moi, j'étais dans un quartier. En fait, c'était 75 maisons pareilles, un programme social de la ville de Vitré, là d'où je viens. Et finalement, c'était la guerre des boutons. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on était. Il y avait des guerres de quartier, parce qu'au milieu, il y avait un grand terrain de foot avec trois arbres, on faisait des cabanes. Et donc c'était vraiment cette vie de village, cette vie individuelle. Mais par contre, on faisait tout à pied et à vélo. Donc, il y avait aussi cette proximité qui, derrière, me paraissait aussi importante. Donc, finalement, la qualité de la maison était surtout liée à la qualité. Urbaine un petit peu sur l'ensemble. Et ça me fascinait. Ça me fascinait de les maisons, comment on y allait, comment on se garait, le jardin, le rapport au jardin, le rapport aux arbres, l'intimité. Déjà petit, donc je dessinais beaucoup de maisons. Alors petit, c'était des mini-châteaux, hein, puis, avec une piscine. Et puis plus je grandis, plus je me dis que c'est pas mal de partager la piscine.
On peut dire que ça a foncièrement changé votre regard sur la ville. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on est enfant, on voit comment les bâtiments, la construction, l'organisation de la vie urbaine autour de nous.
Étant enfant, moi j'ai été très heureux en maison individuelle, en lotissement quelque part. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant aujourd'hui quand on parle de densité. En fait, c'est pas le mode de vie de la maison individuelle qu'il faut rejeter. Parce qu'une maison individuelle ou un quartier, s'il est bien placé dans la ville, et si finalement on a un accès au bus, à pied, à vélo, on a accès à un certain nombre de commerces et de services et d'écoles, finalement c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'on est très très loin de tout, et que derrière on puisse pas finalement avoir un accès simple au travail, à l'école, à l'université. Je fais une micro-pub pour le film À plein temps, qui est sorti dernièrement avec Laure Calamy, qui en fait court toute la journée parce qu'elle habite très très loin en banlieue, elle travaille dans Paris. Ça, c'est vrai qu'on se dit, là, il y a un petit sujet, il y a un petit problème. Donc en fait, moi j'étais très heureux enfant dans un lotissement, et en même temps, on se rend compte qu'il faut croiser ça avec des notions de densité, notions de service, notions de commerce, qui fait que le logement collectif, sans être forcément des tours et des bars, en fait, apporte aujourd'hui beaucoup de services. Et finalement, quand on regarde, rapporte à la personne une vraie optimisation dans l'écologie de la matière, ne serait-ce que du transport. Donc pour moi, c'est jamais tellement évident de me dire que le rejet de la maison individuelle, là où j'étais très heureux enfant, en fait, faut le rejeter aujourd'hui. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. Et en même temps, le collectif pose des questions de vivre ensemble, d'avoir rapport à l'espace extérieur. Hein. Moi, j'étais confiné dans un 40 mètres carrés sans balcon. Bon, on se rend compte aussi c'est un peu entre les deux qu'il y a certainement une efficacité écologique et puis un confort de vie dedans. Donc moi, ce qui était le rêve d'enfance n'est plus forcément mon rêve d'homme de 45 ans, mais en même temps, j'ai pas forcément de bonnes solutions. La question, c'est en fonction de son mode de vie, de son habitat, c'est quoi l'impact sur son territoire.
C'est quoi l'impact sur son territoire à l'époque, quand vous étiez enfant? Vous n'aviez pas peut-être ces notions-là, mais progressivement, collège, lycée, vous avez commencé à penser à votre orientation. Est-ce que c'était déjà là, l'architecture, ou pas encore?
Alors, alors, je voulais être architecte. Voilà, c'est quelque chose qui commençait à me faire un petit peu rêver. Alors, plutôt architecte par rapport au patrimoine, ce qui d'ailleurs était un peu un choc quand j'ai commencé les études d'architecture. Donc moi, ce qui me passionnait, c'était un énorme livre à la bibliothèque qui était en fait l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, avec une double page où on voyait les sous-sols, et, enfin toute l'infrastructure, un peu de l'ensemble. Il y avait le même double livre avec le paquebot France, pareil, on voyait les machines et tout. Vraiment ça, ça me fascinait. Et donc très vite, je me suis dit que l'architecture, c'était un petit peu scientifique, c'était concret, et puis c'était aussi artistique. Donc en fait, assez vite, je me suis dit que c'est ce que je voudrais faire. Et en même temps, mes parents m'ont dit, c'est quoi ce métier ? T'as des bonnes notes en maths, fais ingénieur, ça fera plaisir à ta grand-mère. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, parce que ma grand-mère, quand j'ai été ingénieur architecte, d'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu finis ton diplôme d'architecture vu que t'as déjà ton diplôme d'ingénieur ? Donc, j'expliquais que je voulais le faire aussi pour moi et que c'était au contraire, je pense, une formation géniale. Et d'ailleurs, beaucoup de pays européens, le premier cursus est le même pour ingénieur et architecte. Et après, on se spécialise. Ce qui fait qu'il y a un cursus commun. Et vraiment, cette double formation, pour moi, est d'une cohérence assez géniale. Et vraiment, moi, m'a beaucoup aidé.
C'est un bagage plutôt scientifique, un bac
Bac C, maintenant, les bacs scientifiques. Et puis après, je suis parti en classe prépa pour faire plaisir à ma grand-mère. Mais très vite, en classe prépa, je me suis dit que, oh mon Dieu, j'allais pas trop m'éclater. Et donc, j'ai découvert une école qui s'appelle l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics de l'État, qui avait pour moi deux grands bénéfices. Premier bénéfice, c'est que je pouvais faire un double cursus avec l'école d'architecture. C'est un peu nouveau. Donc aujourd'hui, vous avez l'ENTPE, vous avez le STP, vous avez l'INSA qui propose ces différents doubles cursus qui sont vraiment, à mon avis, vraiment importants, et d'autant plus aujourd'hui avec les compromis à faire entre la technique et le confort. Et le deuxième bénéfice, c'est que je pouvais rentrer en tant que fonctionnaire. Donc elle est fonctionnaire, donc payée pendant mes études, donc étant l'aînée de quatre enfants, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal. Donc voilà pourquoi
C'est le top, ça.
J'ai bûché pour arriver dans cette école que j'ai eue avec grand plaisir. Et finalement aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis arrivé dans l'école de fonctionnaire parce que c'était ce double cursus, parce qu'il y avait aussi ce confort, et puis qui rajoutait cette question peut-être sociale, sociétale. Quel est l'intérêt général, comment on porte de l'intérêt général dans aujourd'hui une évolution qui est aujourd'hui très économique pour faire construire sa propre maison et très écologique sur lequel il faut essayer de limiter les impacts, ce qui là rentre dans nos vies, c'est la question de la voiture, c'est la question du jardin.
Vous vous rappelez d'une rencontre en particulier lors de vos années d'études post-bac, un enseignant, une citation forte, quelque chose qui vous aurait marqué et qui vous a permis justement d'aller en transition vers ce que vous faites aujourd'hui, une rencontre peut-être ?
Alors les rencontres sont peut-être arrivées plus tard dans mon cursus professionnel. Pendant mes études, c'était très... C'était un peu linéaire. Alors, il y a peut-être un professeur de physique en classe préparatoire qui m'avait fait rire en me disant « Monsieur Faucheux, ce n'est pas que vous n'êtes pas logique, mais vous n'avez pas la logique de tout le monde. » Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est certainement une chance parce que j'ai peut-être, et certainement grâce à mon double cursus, une vision assez panoptique des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une bonne solution. La question n'est pas performantielle uniquement, elle est aussi liée au confort. Une fenêtre, c'est certainement un point faible thermique, mais c'est surtout de la lumière, une vue, un paysage, etc. Donc en fait, avoir à prendre un peu les deux faces à un même sujet sont assez importants pour qu'on puisse finalement avancer dans la bonne solution. Et souvent, en physique, c'est ce qu'il me disait. Il me dit, en fait, vous avez une approche, vous avez des détours, vous retombez toujours sur vos pieds, mais avec des complications, ce qui était des complications scientifiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, sont au contraire prendre en compte toutes les données d'un problème. La donnée n'est pas que économique, que scientifique, que physique. Elle est aussi comportementale. Elle est aussi quel imaginaire j'envoie avec telle ou telle solution. Donc, si je vous dis, on va faire une pile hydrogène, les scientifiques, c'est formidable. Mais plein de gens vont dire, ça va exploser, j'ai peur. Donc, finalement, cette vision un peu globale, qui était presque un frein à l'époque pendant mes études, aujourd'hui, je pense que c'est une de mes forces.
Une de vos forces. Et vous étiez quel type d'étudiant ? Plutôt révolté, résigné, optimiste peut-être ?
Je pense que j'étais très optimiste et j'étais toujours délégué. Donc C'est-à-dire que j'étais du côté des profs quand des fois on faisait un peu n'importe quoi en cours, du côté des élèves quand certains profs vraiment exagéraient, etc. Et tout. Donc j'étais une sorte d'ambassadeur ou un peu entre les deux. Bon, après je parle vite, je parle fort, donc ça doit aider, quoi. Puis bon, comme je suis plutôt optimiste, finalement les gens, je pense des deux côtés, les gens se disaient bon, Franck il est pas. Enfin, peut-être qu'aussi, il y a peut-être une notion d'intérêt général que j'arrivais à porter au-delà, et donc qui faisait que j'apportais une certaine confiance.
Donc là, on arrive diplômé, on est sur quelle année, là, à peu près
99.
99, sans donner d'âge, hein. 99, donc parfait, vous avez dit de toute façon tout à l'heure votre âge. 1999, quelle vision en regardant le monde? On est jeune diplômé, on est ingénieur architecte, qu'est-ce qu'on a envie de faire, là, tout de suite?
Alors, en fait, je vais peut-être remonter... Finalement, 18 mois avant, donc je suis dans mon école d'ingénieur, je dois faire un stage et j'apprends que le directeur des services techniques du Louvre est un ancien de mon école. Donc je l'appelle pour dire, voilà, j'aimerais faire un stage au Louvre. Alors le Louvre, là, c'est vraiment, en termes patrimonial, en termes d'art, c'était vraiment le top. Et il me dit, c'est super, c'est parfait parce qu'on a un problème de courant d'air sous la pyramide du Louvre. Donc en gros, il me dit voilà, donc ça pose un problème parce que les gens qui vendent les billets ou qui récupèrent les billets, qui sont eux en station, qui ne bougent pas, ont des problèmes de conjonctivite, de sécheresse des yeux, voilà. Donc si vous pourriez nous faire une petite étude, ce serait super. Donc moi, j'ai dit banco, je viens. Et donc j'ai fait de la thermodynamique des fluides, qui était une matière que je détestais. Mais on a modélisé la pyramide, on a modélisé finalement à grosse maille, notamment les cours Pouget et Marly. Là, vous avez une merveilleuse sculpture française. Et une partie du carrousel, pour se rendre compte que forcément, sous la pyramide, vous avez un apport de lumière hyper important. Vous avez au minimum 35 000 personnes qui passent, donc qui dégagent à la chaleur, donc un apport de chaleur important. Et forcément, il y a des fuites, c'est normal dans un château qui a mis 10 siècles à se construire, des fuites au niveau de la toiture, donc forcément, il y a un tirage d'air. Donc l'idée, donc ce travail se dit comment on essaye soit de limiter ce tirage d'air, et en fait, le tirage d'air était à la limite de l'inconfort, sauf de temps en temps, on avait des pics comme ça qu'on ne comprenait pas, et en fait, un jour, je l'ai compris tout simplement en arrivant... au bureau, je me suis retrouvé qu'un quart de touriste. Et donc, côté Rivoli, les deux portes, il y a deux portes. Normalement, il y a un sas pour permettre justement de limiter l'entrée d'air. Et donc là, les deux portes étaient ouvertes en même temps. Et là, il y a eu un grand courant d'air. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est juste des entrées parasites d'air. Donc, la proposition, c'était juste de tester des rideaux d'air chaud, comme on a dans les centres commerciaux, pour limiter cet apport-là. Et puis surtout de dire, techniquement, c'était compliqué de rendre étanche, voire impossible de rendre étanche les toitures du Louvre. Donc la question, c'était plutôt, c'est quoi le problème? C'est le bâtiment ou c'est l'inconfort des gens, en fait? Le problème, c'était comment on améliore le confort des gens. Donc c'était plutôt, est-ce qu'on n'essaye pas de décaler les gens? Donc à un moment, les ventes de billets qui à un moment se sont faites dans des petites boîtes en verre, aujourd'hui d'ailleurs, se sont décalées sur le côté. Et donc c'était plutôt de décaler un petit peu les postes des contrôleurs de tickets, qui n'existent plus d'ailleurs maintenant, je pense que tout est automatique. Donc, qui permettait en fait de travailler sur ce confort-là. Donc, ce qui avait surpris mon maître de stage, c'est que j'avais fait tout un travail hyper technique et en même temps, je lui ai dit, je voudrais faire un sondage. Donc, j'étais allé voir les gens pour dire, c'est quoi votre inconfort, c'est quoi le problème visuel, c'est quoi. Et donc, pour prendre un peu une vision un peu panoptique, un petit peu des choses.
Et ergo aussi, un petit peu.
Voilà, un peu ergonomique, exactement. Et donc, se dire, en fait, le soleil, c'est peut-être pas un problème s'il y a personne. En fait, le problème, c'est quand il y a une plante ou quelqu'un. Mais finalement, s'il n'y a personne, finalement, s'il y a une grande tache solaire et un gros inconfort solaire, ce n'est pas très grave. Donc, je fais ce rapport de stage au Louvre qui se finit très bien. Je reviens avec un tome énorme. Et là, en dernière année, mes professeurs me disent « Ah, mais en fait, tu as fait de la thermique. Es-tu au courant que la France a signé les accords de Kyoto ?» Ben, pas au courant. « Es-tu au courant que le ministère, à l'époque de l'équipement, va changer la réglementation thermique ?» Et donc, en fait, on a besoin d'ingénieurs thermiciens. Et finalement, tu as fait la thermique. Et donc, donc c'est comme ça que mon premier job, ça a été ingénieur thermique pour faire les premiers contrôles thermiques des bâtiments. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Nantes pour faire ces premiers contrôles.
Donc, c'était un premier boulot. Ce n'était pas du stage, en fait.
Non, alors, voilà, stage et après, premier boulot. Je faisais partie des CT, des centres techniques de l'équipement qui, aujourd'hui, sont devenus les CEREMA, qu'en fait le bras armé technique du ministère du logement. Et donc c'est eux qui font les contrôles, contrôles acoustiques, les contrôles accessibilité. Et donc moi j'étais pour les premiers contrôles thermiques. Et donc je me retrouve 24 ans à faire dans la première année des contrôles pédagogiques et donc faire de la formation. Et je me retrouve en face de salles entières de maçons, de chauffagistes, de plombiers, donc tous les corps d'État qui allaient vraiment être bouleversés par cette augmentation. Et ça se passe très mal. Je me fais huer et vraiment... vraiment, c'est bien l'État qui nous fait encore une réglementation, qui nous empêche de travailler. Il faut dire que ces réglementations changeaient beaucoup de choses. Avant, on isolait, et là, il fallait isoler et justifier de la qualité de vos équipements de chauffage. Et c'était l'articulation des deux qui disait si vous étiez réglementaire ou pas. Donc ça imposait, même pour des tout petits bâtiments, un bureau d'études thermiques, donc une étude supplémentaire, donc un coût supplémentaire. Donc forcément, ça réintroduisait un partenaire et donc aussi des coûts. Et puis voir, ça changeait avant la chaudière, on mettait une chaudière, alors que là, la chaudière, on l'a choisie en fonction de votre isolation. Donc bref, ça changeait beaucoup de choses. Et je me rendais compte que les gens vraiment n'adhéraient pas. Et c'est là que je me suis dit, il y a comme un bug quand même, parce que cette réglementation n'a pas été faite pour rien. Elle a été faite pour finalement réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Et donc c'est là que moi j'ai commencé à dire aux gens, je vais prendre 5 minutes pour vous parler du développement durable. En plus, on était en Bretagne, on avait une marée noire. Donc, c'est des gens, quand on leur parlait de marée noire, pollution, trous dans la couche d'ozone.
Quelle année ?
99-2000.
Vous étiez tout jeune encore.
Voilà. Et donc là, les gens, forcément, remis dans ce contexte-là, disaient bah oui, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Moi-même, je me rends compte, depuis que quand j'étais gamin, tout était super. Maintenant, il y a plus de pollution, etc. Et donc, je leur disais donc, il faut qu'on lutte contre la pollution. Donc, la France s'engage. Donc, la France signe les accords de Kyoto. Les deux mauvais élèves, c'est le transport et le bâtiment. Donc, il faut qu'on réduise l'impact du bâtiment sur la planète. Donc, on a cette réglementation thermique 2000 qui arrive. Donc, en fait, c'était la même chose, mais ces 5 minutes faisaient qu'on mettait dans un contexte et globalement fait qu'on comprenait plus le sens de ces réglementations. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à me dire, il faut que je m'intéresse au développement durable, il faut que je m'intéresse à une vision peut-être plus globale pour derrière ne pas voir des effets de choc, des effets de non-adhésion ou de défiance sur finalement des réglementations qui ne sont pas faites pour nous embêter, mais qui sont faites pour nous sauver, ou plutôt nos enfants.
Très bien. Donc en fait, on va dire que c'est arrivé à la fois progressivement, mais très tôt, ce moment de bascule. Vous aviez déjà pleinement conscience de ce qu'allait être votre démarche. Et comment vous en êtes arrivé quelques temps après, quelques années après, à la fois en tapant à la porte de Eiffage, à affirmer votre légitimité dans le domaine et puis à en parler au quotidien, en fait, comme vous le faites aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si je me sens légitime. Je ne me sens toujours pas légitime aujourd'hui. Je pense que je suis totalement dans le complexe de l'imposteur. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de cette première approche extrêmement, d'abord réglementaire, mais en disant finalement pourquoi on le fait, c'est quoi le sens qu'on donne à ces réglementations. Après, moi, quand je suis passé par le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, c'était assez intéressant de dire qu'il fallait qu'on accélère la qualité environnementale. Donc, c'était un programme à l'époque qui était porté par le ministère du Logement et qui disait comment on essaie de faire des bâtiments environnementaux et en même temps qui permettent de faire des bâtiments et privés et sociaux pour accélérer un peu l'ensemble. Et là, je m'étais rendu compte que la question n'était... Il y avait un vrai engagement des maîtres d'ouvrage, mais la question n'était plus technique, elle était purement financière. En gros, il fallait 30 000 euros d'écart entre un logement classique et un logement, on va dire, durable. Ce qui est logique, hein, parce qu'au lieu de mettre 8 cm d'isolant, vous en mettez 10, 12, 15, 20 par l'extérieur, plus un bardage, ben, y a plus de matière. Un chauffe-eau électrique, c'est entre 200 et 1 000 euros en fonction de la taille de votre chauffe-eau. Un chauffe-eau solaire, c'est 3 500 euros. Donc en fait, on comprenait ces 30 000 euros, mais sauf que ces 30 000 euros n'étaient pas finançables. Parce qu'on ne prend pas les charges dans votre prêt immobilier, on ne prend pas les charges. Donc même si ça diminue vos charges, on ne vous prête pas ces fameux 5 000 euros un petit peu supplémentaires. Et c'est là comme ça que sur un programme à Chalon-sur-Saône, qui s'appelait Saint-Jean-des-Jardins, en fait, on s'est rendu compte que là, ils faisaient ces villas urbaines durables au même prix que les logements d'à côté. Alors, je demandais comment, ils me disaient, en fait, on n'a pas raisonné bâtiment, on a raisonné aménagement, quartier. Au lieu que chacun sa chaudière, on fait une chaudière pour tout le monde. Donc chacun son garage, on fait des garages pour tout le monde. Et donc l'effet d'échelle, plus le fait qu'on optimise, fait qu'on effaçait ces fameux 30 000 euros. Donc c'est là que moi, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux aspects économiques, aux modèles économiques, et à notamment de se dire qu'il fallait beaucoup travailler avec les promoteurs, avec les aménageurs, en fait finalement la part très privée de la ville, parce que finalement l'engagement politique est là, on va dire que l'engagement aussi des citoyens est là, mais aujourd'hui ce modèle économique était compliqué à trouver, qui se retrouve justement dans comment j'ai mon foyer, ma maison, mais en même temps comment le fait de partager un certain nombre d'éléments, un peu de jardin, un peu de voiture, un peu de transport, fait que globalement, économiquement, je peux avoir mon logement qui va diminuer de 30% mes émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'échelle quartier est devenue importante. Donc là, en 2007, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à cette échelle-là. On entend parler de Fribourg, quartier Vauban en Allemagne, de Kreuzberg à Berlin, de Hammarby à Stockholm, de Bedsted à Londres. Mais aussi, on commence à sentir qu'il se passe des choses du côté de Grenoble, du côté de Lyon, du côté de Nantes, du côté de Rennes, avec un ensemble de quartiers. Et donc là, je commence à travailler sur les quartiers du Rhum. Mais à l'époque, c'était vraiment, bon, on va dire, de la R&D du ministère. Et puis est arrivé le Grenelle Environnement, engagement 49 du Grenelle, développer les écoquartiers. C'est comme ça que moi j'ai eu la chance de pouvoir porter pendant 10 ans cette démarche-là. Et cette démarche en fait qui était à la Grenelle. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un grand groupe de travail parisien pour essayer après d'appliquer, en fait on a fait un grand club qui était porté directement par les villes et par les équipes des villes, dont le privé, pour dire... comment est-ce qu'on va essayer de partager sa chaudière, partager ses vélos, partager ses stationnements, faire plus de place à la nature pour finalement permettre d'avoir des écoquartiers à la française.
Il y avait déjà une prise de conscience collective à l'époque de l'urgence que l'on vit aujourd'hui.
Oui, et par les territoires, vraiment par les territoires. Enfin, je trouve que, en gros, moi, j'ai beaucoup appris. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas apporté grand-chose, j'ai simplement... permis qu'on rapproche des prises de position politique de la ville de Grenoble, de la ville de Lyon, de la ville de Rennes, de la ville de Nantes, de la ville de Paris, de la ville de Lille. Certains avec un apport extrêmement social, Lille avec beaucoup de questions sociales et de dépollution des sols. D'autres avec un vrai changement de comportement, comme à Grenoble, on fait tout à vélo, quoi. On fait de la vraie densité parce qu'aussi on a une cuvette. Donc des engagements aussi portés par la culture, avec Nantes, où on fait d'abord, on s'appuie finalement sur la troupe de théâtre Trois Lieux de Luxe, on fait le musée des machines, on demande à M. Chemetov, paysagiste, de faire d'abord le jardin, comme on a fait aussi à Batignolles, on fait d'abord le jardin Martin Luther King, pour créer une adhésion et après on fait les bâtiments autour. Donc vraiment, ça a été ce rapprochement de politique locale qui vraiment portait de l'écologie, mais peut-être plus l'écologie urbaine, voire industrielle, et qui finalement ont permis de faire des quartiers aujourd'hui qui vivent bien. Vous avez toujours un parc, vous avez toujours des commerces, vous avez toujours du logement privé, du logement social, des écoles, une vie de quartier dans une densité quand même assez importante et souvent avec un vrai confort de vie. Donc là, donc vraiment, il y avait une vraie compréhension. Et Bordeaux aussi, bien sûr. Enfin, en gros, les politiques locales. Alors souvent, on voit bien qu'il y a aussi une ville, une métropole, une prise de conscience sur les réseaux urbains partagés. Souvent, une agence d'urbanisme ou un CAUE qui va porter un peu d'architecture ou de vision un peu sur l'ensemble du territoire, qui fait que les territoires avaient déjà tout compris. Et en gros, c'est le fait que les écoquartiers soient portés autant par eux, avec à l'époque une direction générale de l'administration, dont à l'époque une certaine Stéphanie Duplion, qui est aujourd'hui la directrice générale, qui fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'inspirent encore. Globalement, on était tous autour de la table. Vraiment, et ça, vraiment, cette démarche écoquartier qui finalement n'est pas une loi, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de loi, c'est simplement comment tous ensemble. On essaye entre le code de l'urbanisme, le code de la construction, le code de l'environnement, le modèle économique local, les politiques locales des villes, ben on arrive à faire plus de voitures, enfin excuse-moi, plus de vélos, moins de voitures, moins de... Voilà, c'est ça. Oh mon Dieu, le lapsus révélateur. Voilà, donc, en tout cas, cette démarche écoquartier fait que tout le monde avait sa place, et notamment le privé. Et dans le privé, ce qui est toujours assez intéressant, c'est que finalement, au regard des urgences écologiques que l'on a, en fait, faire une fois un super bâtiment complètement autonome, mais qui est en dehors des codes économiques, on ne va pas y arriver. Si par contre, avec un industriel, on arrive à systématiser l'isolant biosourcé, à systématiser moins de béton, à systématiser de garder la pleine terre, en fait, c'est peut-être moins démonstrateur. Par contre, en termes globalement de tonnes de CO2 économisées, c'est plus important. Donc moi, c'est comme ça que finalement, je travaillais beaucoup avec le privé et qu'à un moment, j'ai eu l'opportunité que Valérie David, autre femme formidable, géniale, d'une énergie folle, qui m'appelle en me disant, voilà, je travaillais avec un peu tout le monde. Hein, donc, et en fait, elle me dit, on lance un grand éco-quartier, puis on va faire beaucoup d'innovations. Elle me dit, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui ça pourrait intéresser de faire autant de l'agriculture urbaine que du nouveau béton, on serait preneur pour un touche-à-tout. Quoi. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait m'intéresser. Donc, je suis actuellement en dysmobilité du ministère du Logement. Et en me disant, en mettant de l'autre côté de la barrière, chez un industriel du BTP, du logement, et en même temps, c'est intéressant.
Que l'on peut nommer.
Hein. EFAGE, voilà. Et donc la branche construction. Et en se disant que finalement, la stratégie bas carbone qui se met en place chez EFAGE aura une réponse industrielle. Alors, on n'est peut-être pas dans la rupture. On voit bien que la conduite du changement est compliquée. Mais par contre, c'est vrai que derrière, en termes quantitatifs, il y a une vraie efficacité.
Alors, il y a une efficacité, mais est-ce que subsistent aujourd'hui chez vous des frustrations quand vous regardez à la fois votre mission, mais tout ce qui reste à faire? On a vu le rapport assez alarmant du GIEC. Comment vous sentez aujourd'hui, à la fois dans votre mission, mais par rapport à tout ce qui reste à faire aujourd'hui?
Ben, on ne sent pas très bien. Hein. Donc, on ne sent pas très bien parce que... toutes les démarches que moi j'ai pu porter entre la réglementation thermique, entre la démarche éco-quartier et aujourd'hui la stratégie bas carbone d'un grand groupe du BTP français, fait globalement qu'on avance de plus en plus, on a de l'adhésion, mais globalement, on voit bien que les 30% de CO2 pour 2030, il va falloir aller chercher. Ce qui veut dire... globalement, changer beaucoup de choses, voire même changer... donc là, il faut aussi changer les clients, enfin, il faut aussi changer la demande. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens nous disent, je veux un... Enfin, j'ai cherché un appartement, là, j'ai déménagé il y a un an, tous les agents immobiliers me prenaient le plein ouest. Mais le plein ouest, ça va être l'enfer, enfin, avec par rapport aux canicules. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement un peu global, un peu d'ensemble. Moi, je participe à une stratégie bas carbone, qui est une stratégie comptable de comment je choisis mes matériaux pour qu'ils soient le plus... bas carbone possible, mais c'est un des maillons qui globalement pose la question, et la nature. Donc il faut garder la pleine terre, il faut garder des zones humides, il faut mettre des places de vélo, mais c'est pas parce qu'on a une place de vélo que les gens font du vélo, donc il faut travailler sur le comportemental. Donc c'est vrai que des fois le maillon difficile d'aller sur, on va mettre moins de béton, un peu plus de bois, qui déjà est un petit parcours du combattant, en fait, on se rend compte que il faut aussi derrière avoir beaucoup d'autres choses qui vont du très comportemental malgré nos libertés de comportement de chacun, et en même temps d'autres politiques publiques, des réseaux de chaleur. C'est vrai que quand les villes ne mettent pas en place de réseaux de chaleur, c'est compliqué aujourd'hui de se dire . En plus, là, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une défiance du gaz, ce qui est très bien par d'autres biais. Donc, pas son biogaz, mais qui dit biogaz dit méthaniseur. Qui dit méthaniseur, il faut qu'on se mette à trier nos poubelles. Enfin, on voit bien qu'à un moment, on a bien le chemin. Enfin, c'est ce que dit le GIEC, hein, Jean Jouzel, que moi j'écoute à chaque rapport, qui se désole d'avoir raison depuis 30 ans. Globalement... nous a bien démontré le chemin, mais ce chemin, il est très personnel dans nos quotidiens, très collectif dans nos choix d'investissement, et derrière, tout est un petit peu lié. Et on sent bien que chacun dans nos métiers, c'est déjà tellement difficile de changer, que souvent, tout ça mis bout à bout, c'est un peu difficile. Et d'un point de vue très personnel, il y a 2 ans, j'ai eu une sorte de révélation. Je suis bénévole dans une structure qui s'appelle Plateau Urbain, qui fait de l'occupation temporaire. Donc c'est une autre vision de l'écologie urbaine, mais que vraiment avec des gens qui m'inspirent. Alors Simon Lainé, Paul Citron, Laura Petitbon, Cécile Altaber, enfin des tas de gens qui sont Gauthier Lebaille, enfin bref, des tas de gens vraiment vraiment investis. Et donc dans ce cadre-là, en fait, on avait été appelé, donc Plateau Urbain, la coopérative Plateau Urbain avait été appelée pour participé à une conférence devant l'Association des jeunes protestants de Paris. et en fait, finalement, leur demande était sur comment lutter contre les grands projets de Paris, enfin, les grands projets de Tours, etc. Bon, bref. Et donc, finalement, on s'est dit, mais c'est pas vraiment ce que fait Plateau Urbain sur résorber la vacance, soutenir la création, que vous voulez nous interroger, c'est plutôt sur un port d'urbaniste. Donc, finalement, c'est moi qui est un peu l'urbaniste du groupe. Du groupe Plateau Urbain, d'y aller. Et j'étais en face d'une centaine de jeunes, 20 ans, mais hyper militants, mais positifs, militants, grosse remise en cause de plein de choses. Et en préparant, je leur avais dit, ben, écoutez, en vous voyant, comme j'avais plus de 40 ans, je dis, moi, je me rends compte que je suis un homme de l'atténuation. En fait, il y a deux grandes politiques en termes techniques. Il y a l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est faire moins de CO2. Moi, je suis totalement un homme de l'atténuation. Moins de voitures, plus de vélos, moins de béton, plus de bois, moins de routes, plus de nature, porté par l'ensemble des réglementations des différents ministères, du code de l'environnement, code de la construction, code de l'urbanisme, etc. Donc, et déjà... J'espère l'avoir fait avec beaucoup de conviction et avec grande foi, mais c'est jamais que de l'atténuation. Et aujourd'hui, cette génération, et moi-même dans mon quotidien, on n'est plus à l'heure de l'atténuation, on est à l'heure de l'adaptation. Et entre mes 0 et mes 24 ans, j'ai connu une canicule, la canicule de 2003, 15 000 morts, l'enfer. Depuis que j'ai 40 ans, je pense que j'ai 4 à 5 coups de chaud par an. Donc si je prends juste ce phénomène-là, je me rends bien compte que là, la question, ce n'est pas uniquement de comment on se met au frais de temps en temps, c'est comment on s'adapte, comment les logements doivent être tous traversants, permettant un courant d'air, ce qui veut dire que si vous donnez sur des rues hyper passantes, hyper bruyantes, ça va être compliqué de bien dormir en cas de chaleur. Enfin, comment on se protège? On sait faire, faut mettre des claustras en bois, super, mais qui les paye, ça a encore un coût supplémentaire qu'on n'a peut-être pas. Donc aujourd'hui... je me rends compte qu'aujourd'hui, faut aller plus vite. Et je ne sais pas trop comment faire pour aller plus vite. Donc, et que la génération là qui arrive, vraiment nous bouscule, hein, nous bouleverse. Et dernièrement, là, cette petite vidéo virale de jeunes diplômés de Paris Agro qui font un appel à la désertion, ça m'a beaucoup secoué sur le fait de dire... c'est super d'avoir ces parcours un peu différents et qui décident de faire autre chose. Et ça montre qu'il faut aussi, qu'on remette en cause beaucoup de choses. Et en même temps, ma place que j'ai eue au ministère, ma place que j'ai aujourd'hui dans un groupe privé, fait que j'espère que ça va faire basculer peut-être plus de monde, alors peut-être moins vite, avec moins d'impact, mais peut-être plus en quantité. Donc, il faut les deux.
Et pour finir sur ce sujet, avant de parler de vos muses et de votre livre de chevet qui vous inspire, est-ce que vous avez justement un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, qui ont envie de faire passer des idées d'engagement, leur vision, leur perspective, parler ou témoigner de leur première pierre, mais qui n'osent pas? Vous avez évoqué tout à l'heure, avec un terme fort, hein, cette idée de syndrome de l'imposteur. Donc il y a des tas de gens peut-être qui nous écoutent et qui se disent « moi j'ose pas » ou « je sais pas » ou « je suis pas là pour ça » ou « je ne sais pas faire ». Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur donner comme conseil?
Faut essayer, quoi. Faut essayer, faut proposer. Là, dernièrement, on est sur un projet appel d'offres. C'est marqué en gros, en gras, aucune variante possible. Et la demande, c'est de déconstruire pour reconstruire. Et quand on voit le bâtiment à déconstruire, on dit, mais pourquoi on le déconstruit? Le bâtiment, au contraire, il faut l'épaissir, il faut mettre des nouveaux balcons en bois. Mais au contraire, il faut garder le bâtiment parce qu'on va générer un inconfort pour les voisins pendant 2 ans.
Donc, il faut oser dire, quitte à chuter sur le moment.
Alors, justement, en fait, c'est ça. En fait, parmi l'équipe, la moitié, on dit on prend un énorme risque si on fait ça. On va être éjecté du concours. En même temps, si on le fait, on envoie un autre message. Et en fait, on se rend compte que dans les questions-réponses, c'est une question qui a été très vite posée. Et en fait, finalement, le fait qu'on la pose aussi a montré notre posture collective à dire, et si on faisait un peu différemment, sachant qu'on répond au programme, mais par un autre biais, on garde la structure, donc je gagne 30% de CO2, donc je gagne, je sais pas, je pense 200 tonnes de CO2. Enfin bref, ce qui fait que là, c'est... Et le fait de juste poser la question, et donc en fait, on a été plusieurs à se la poser ensemble, dire posons la question au maître d'ouvrage. C'est quand même, il fait tout un paragraphe sur l'économie circulaire, il demande de le détruire, le bâtiment. Il y a un peu un paradoxe. Ça ne coûte rien de poser la question, il faut juste avoir ce courage, et finalement, on se rend compte que c'est... Bon, en fait, je pense que tout le monde va proposer de garder le bâtiment, quoi. Donc
il faut oser.
Exactement.
Osons ensemble. Et qu'est-ce qui, justement, ou qui vous a mis sur cette démarche-là, sur cet élan d'inspiration?
Après, je vous disais, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des collègues ou des supérieurs hiérarchiques ou des gens qui, en fait, ont écouté et ont permis de dire « Vas-y, montre-nous, fais-nous... » Alors, quand j'ai l'administration, j'ai fait beaucoup de notes. Donc, je fais une petite note pour expliquer pourquoi est-ce que, plutôt que de faire une loi éco-quartier, on va plutôt faire un club éco-quartier et qu'au contraire, on va revisiter certains articles du Code de l'urbanisme.
Vous avez une muse en particulier ?
Alors, Stéphanie Dupuy-Lyon, qui a été à l'époque, qui était adjointe au sous-directeur et qui est maintenant directrice générale. Valérie Lazec, aujourd'hui, qui est directrice générale de l'établissement public d'aménagement Atlantique, qui a été ma chef et avec qui parlait beaucoup d'écologie politique. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus sur une approche très très politique de l'écologie, avec comment derrière, tout ça c'est des choix un petit peu politiques.
Donc des femmes.
Valérie David, alors elle c'est plutôt de l'écologie industrielle, mais qui justement porte depuis presque 15 ans chez Eiffage, d'abord un laboratoire phosphore, puis aujourd'hui la direction développement durable, et que j'avais rencontré par hasard à un colloque et qui était venu me voir pour me dire on n'arrive pas à avoir une autorisation sur un échangeur de chaleur. Et en fait, moi j'avais juste expliqué, c'est une question entre telle ou telle loi. Donc bref, moi j'avais fait de la facilitation, mais comme je l'ai fait pour un peu tout le monde. Donc vraiment, des femmes qui m'ont beaucoup... beaucoup inspiré. Et puis des groupes, comme je vous disais, plateau urbain, vraiment, histoire de la vie, vous prenez un stagiaire.
En deux mots, plateau urbain fait, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas...
De l'occupation temporaire. On repère des bâtiments vides, qui globalement vont être vides 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, le temps qu'ils soient vendus ou détruits ou déconstruits. Et on se dit, c'est tellement dommage que ce bâtiment ne soit pas utilisé, et simplement qu'il y ait juste un gardien qui soit là pour qu'il ne soit pas squatté.
Ça va être des lieux intermédiaires, des tiers-lieux, etc.
Exactement. Donc l'idée, c'est... Et à côté de ça, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur place dans la ville. Les artistes n'ont souvent pas la place. Ils ont besoin pendant 2 ans d'une hauteur sous plafond important pour faire une sculpture, ils n'ont pas la place. La jeune entreprise, l'économie sociale et solidaire, l'associatif. Et donc l'idée, c'est... Ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, moi, ce qui m'a plu, c'est le modèle économique. C'est de se dire, c'est pas gratuit, c'est pas de l'aide, c'est pas de l'assistanat. Simplement, on dit au propriétaire, plutôt que de payer un gardiennage, on va vous le garder gratos, vu qu'il y aura des gens dedans. Donc, simplement, pas de loyer, et on va payer les charges et les impôts.
Ce ne sera pas un squat.
Ce ne sera pas un squat. Et donc, tout est légal. C'est-à-dire, c'est un bail, soit un vrai bail, soit un bail dérogatoire, soit un bail temporaire. Enfin, tout est justement... Et d'ailleurs, à l'époque, le groupe plateau urbain était venu me voir pour qu'on voit comment ça pouvait être encadré dans le cadre du code d'urbanisme pour justement ne pas être dans de la dérogation et être dans du vrai droit. Donc, l'idée, c'est que pendant 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, en fait, c'est les lieux vivent. Et donc, c'est tellement mieux aussi pour les voisins qu'on rencontre un lieu qui vit, souvent un lieu ouvert. Et souvent, on se rend compte que les bureaux qui nous paraissaient obsolètes par rapport à la demande des bureaux d'aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'ils peuvent être utilisés, réutilisés pour faire un atelier d'artiste au dernier étage, pour faire un lieu collectif au rez-de-chaussée. Et ça ouvre plein de possibilités d'usage auxquelles, finalement, souvent... le promoteur n'a pas idée parce qu'il est dans un marché particulier. Et souvent, le marché peut être aussi plein de gens qui ont un peu de moyens et ensemble, c'est un marché, mais un peu disséminé. Donc, Plateau Urbain a fait cette jonction entre des propriétaires de locaux vides, temporaires, et des tas de gens qui cherchent des locaux temporaires parce qu'ils ne savent pas si leur boîte va marcher, parce qu'ils ont besoin, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Et Ce qui permet en fait aussi de montrer qu'on peut faire la ville sur la ville. Et donc et souvent le côté temporaire est important parce qu'on dit aux gens, vous allez être ensemble peu de temps, profitez-en, rencontrez-vous, faites la fête, faites des projets ensemble. Et souvent, c'est ce qu'on ne dit pas ça quand on fait un nouveau quartier. Faites la fête, rencontrez-vous, faites des barbecues. Alors que c'est là où on se rend compte et c'est là qu'il se passe plein de choses. Donc vraiment, plateau urbain, c'est de l'urbanisme, de l'économie et du vivre ensemble. Formidable.
Un livre pour terminer qui vous accompagne ou qui résume un petit peu votre démarche et votre vision ?
Alors j'ai deux livres, c'est Ravage de Barjavel, donc une société où tout le monde vit dans les tours et puis il y a un problème technique, plus électricité et donc la vie dans les tours devient impossible. Et un jeune et beau jeune homme qui a fait une école agro, d'ailleurs peut-être un des déserteurs d'Agro Paris-Tech, qui va sauver une belle jeune fille et refonde une société agraire. Donc ça m'a toujours marqué, hein, ce livre Barjavel, Ravage. Et un deuxième, Le Cantique de l'Apocalypse joyeuse de Arto Pasolina. C'est un homme qui a un héritage, on lui offre un terrain, il faut simplement qu'il fasse une église, sinon il n'y a pas ce fameux terrain. Et donc il décide de le faire, et puis en fait il arrive dans une sorte de village en Finlande, et puis au fur et à mesure, en fait, il y a un petit problème géopolitique, et il se retrouve à être coincé là-bas, et il recrée une société qui vit en autarcie, ils réapprennent à chasser, à faire des salaisons, à vivre l'hiver ensemble, faire leur propre bois, et recréer une société complètement écologique, un petit peu d'ensemble. Et au fur et à mesure, donc le livre commence aujourd'hui, et puis plus il avance, plus on est en 2030, 2050, 2100, et en fait on sent finalement ce que pourrait être une apocalypse joyeuse à la GIEC, et montrant comment faut revivre plus dans une économie locale, circulaire, sociale et solidaire. Et vraiment, ça, deux livres vraiment intéressants. Et après, j'avais juste réfléchi à des documentaires. Si vous avez
rapidement,
jamais...
Rapidement.
Voilà. Le sel de la terre, Wim Wenders, avec le photographe Sal Delgado. C'est la seconde partie du documentaire qui est super, quand il recrée... En fait, c'est plutôt sa femme, le personnage de sa femme, qui recrée des forêts primaires. Et en fait, Salgado, à un moment de dépression, de voir les hommes, retourne au Brésil où ses parents ont déforesté le territoire, mais pour que lui puisse faire des études d'ailleurs. Et en fait, sa femme dit, attends, t'es déprimé, on va refaire une forêt. Et depuis, ils refont des forêts. Et depuis, il est devenu photographe de la nature. Vraiment, voyez, c'est encore sa femme qui est vraiment, vraiment présente. Et puis, un tout petit documentaire qui s'appelle The Corporation, qui en fait... on fait l'analyse psychiatrique de l'entreprise, montrant que l'entreprise, elle est paranoïaque, schizophrène, enfin, c'est l'enfer. Et en disant, il faut aussi qu'on arrête de dire, c'est pas moi, c'est l'entreprise. Il y a des gens dans une entreprise, on peut prendre des décisions intelligentes aussi. Et donc, il y a toute cette première partie du documentaire, et à la fin, il y a plein de bonnes idées. C'est là qu'on voit le microcrédit des femmes indiennes qui ensemble refont, alors je ne sais plus ce qu'elles doivent faire, sans doute de la couture, je ne sais pas trop quoi, mais en fait la dernière partie du commentaire est super positive. Donc vraiment, ça m'intéresse aussi à un moment d'avoir, on s'en prend plein la tête sur une réalité vraiment angoissante de notre monde, et en fait d'avoir à la fin quand même des petites actions. C'est vraiment la théorie du colibri, hein, Pierre Rabhi, qui en fait montre qu'on peut faire différemment. Donc vraiment...
On peut faire différemment. En tout cas, vous nous avez donné beaucoup d'optimisme et de tips pour aborder le présent et l'avenir positivement. Donc merci à vous. Merci à vous, Franck Faucheux, pour ce témoignage et d'avoir osé franchir le cap de ce récit Première Pierre sur Bâti Radio. Merci.
Merci beaucoup.
Première Pierre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.